journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1.
Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs. L'émission où vous avez la parole, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans le JDA, nous parlons d'une initiative à la création de l'école politique africaine ou comment révolutionner le monde par l'éducation. Cette association veut diffuser les connaissances sur la politique africaine, permettre à ceux qui veulent jouer un rôle social et politique de se former. Alors, qui est derrière cette école? Quelle vision de l'Afrique propose-t-elle? Nous en parlerons dans quelques instants avec l'un des professeurs, Azat Boukari Yabara, historien spécialiste de l'Afrique et du panafricanisme, on peut le dire, pour intervenir, nous faire part de vos avis, de vos commentaires et surtout poser vos questions à notre invité. Composez dès maintenant le 01 55 07 58 00 depuis la France. Et si vous nous appelez depuis partout ailleurs dans le monde, n'oubliez pas l'indicatif 00 33 1 55 07 58 00. Avant cela, sans plus tarder, on se tourne vers le répondeur d'Africa numéro 1 pour écouter quelques-uns des messages que vous nous avez laissés.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Bonjour. Pour revenir à l'élection de Bolsonaro hier au Brésil, à la question « Un Bolsonaro est-il possible en France ?», je répondrai d'autant plus par l'affirmative qu'il y a à peine 2 ans, cela a failli être le cas, n'eût été la victoire d'Emmanuel Macron. Vous rendez-vous compte que dans certains quartiers du Brésil, il était devenu presque dangereux de sortir un simple smartphone de sa poche. Il en sera ainsi tant qu'en France, la gauche, dans sa naïveté, continuera à donner comme principale cause de la délinquance la lutte des classes et la pauvreté. Or, la délinquance a très peu de rapport avec la pauvreté. Elle est surtout liée à la mauvaise éducation ou à une éducation familiale contradictoire, voire à la psychiatrie. Merci.
Oui, Julia, bonjour. Je voulais répondre à un auditeur qui disait que Alassane Ouattara, qu'il laisse le pays, n'est-ce pas? Enfin, il donne le pays à celui-là même qui peut le gouverner. Non, en fait, nous vivons ici en Europe. En Europe, quand tu finis ton ou tes 2 mandats, tu disparais. On n'entend même plus parler de toi. Et jusqu'à dessein, ils sont encore en vie. Ils sont là. Est-ce que vous le voyez parler de quelque chose? Il a gouverné la France. Le Bush père et fils, ils sont aux États-Unis. Ils ne sont pas morts. Ils sont là. Donc, Ouattara, il finit ses 2 mandats, il dégage. On ne veut plus entendre parler de lui, c'est fini, il n'a qu'à partir, c'est terminé. Voilà, c'est le peuple ivoirien qui choisit celui qui va, n'est-ce pas, conduire sa destinée future. C'est le peuple ivoirien. C'est pas Ouattara de dire, bon, quand je m'en vais, bon, toi, il faut prendre le pouvoir. C'est quoi ça? Comment on peut encourager cela? C'est quoi ça? Merci.
Oui, amis auditeurs, bonjour, c'est Jomo de Beng. Je viens d'écouter le journal de BBC et j'ai bien noté qu'il y a des problèmes à Marabadiatra, encore la Côte d'Ivoire. Encore un problème post-électoral. Oui, un problème post-électoral. Vous savez, après les élections, il y a une vie, chers Ivoiriens. Après les élections, il y a une vie, je répète encore, chers Ivoiriens. Il n'y a que 5 ans, celui qui a été élu. Il n'a que 5 ans. Et avant ces 5 ans, il aura 50 morts. Disons qu'alors, après ces 5 ans, il aura combien de morts? Il faudrait que les citoyens se posent une question. Et la question est la suivante. Est-ce que je vais me laisser tuer pour une personne qui déjà ne pensera même pas à moi quand il sera élu, Jomo de Beng?
Oui, bonjour, Madame Stéphanie Hartmann. Bonjour à tous les auditeurs. J'aimerais m'adresser au maire sortant de Grand Bassam, Côte d'Ivoire, M. Izalé, et au PDIR. S'il vous plaît, essayez de mettre pas la terre pour régler ce problème. Ça ne sert à rien de vous bagarrer pour une simple raison, parce que vous avez perdu. S'il vous plaît, la Côte d'Ivoire va passer avant tout. M. Izalé, je veux dire papa Izalé. Tu as dit à tout ce que tu veux. Tu étais maire depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui. Tu as déjà fait tes preuves. Laisse la place à ton jeune frère. Évite ces histoires. C'est honteux. Franchement, nous sommes ici. On a honte. Quand je vois ça. Merci et bon week-end. Au revoir.
Bonjour, Madame Hartmann. Bonjour, les amis des JDR. Bonjour,
le peuple africain, il n'y a qu'une solution pour sortir dans la crise politique qui est au Congo démocratique. C'est le départ pur et simple de M. Kabila et les occupants rwandais ou ougandais par Kagame avec Museveni. C'est ça que nous disons qu'il n'y aura plus la crise politique. Mais si ces gens-là demeurent au Congo, si ces gens-là persistent et s'ils restent au Congo pour voler les matières premières de la RDC, pour violer des femmes et des détournements des deniers publics, pour enrichir le Rwanda et l'Ouganda, nous disons le peuple congolais, l'article 64, et nous disons, nous allons le mettre en pratique parce que nous sommes déterminés à le faire pour faire partie ces gens-là qui ont trouvé du miel au Congo, qui ne veulent pas partir, qui veulent rester avec la complicité de la communauté internationale et leur marionnette, M. Hippolyte Kagame, alias Kabila, à la République démocratique du Congo.
Chers amis de JDA, bonjour. J'aimerais un peu m'exprimer par rapport à la situation qui prévaut actuellement en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo aujourd'hui est devenue un État à part entière. C'est comme un État, mais dirigé par des extraterrestres. Pourquoi des extraterrestres? Voyez, même l'ONU, l'organisation qu'on croyait que ses lois prévalaient au-dessus des nations, l'ONU nous a prouvé le contraire en République démocratique du Congo. Plus de 15 ans, l'ONU n'a fait que servir les intérêts de Kabila, n'a fait que jouer le jeu de Kabila, s'est mêlé dans la gestion chaotique du pouvoir de Kabila. Et voilà, aujourd'hui, l'ONU est humiliée. Les élections sont organisées de la façon dont Kabila avait veut avec les résultats qu'on connaît déjà. À vous de juger pour la suite. Je vous remercie. Max de la Région Parisienne.
Africains, africaines, aujourd'hui, je voulais dire quelque chose. Est-ce que vous savez pourquoi nous, les Africains, on souffre? Est-ce que vous savez pourquoi l'Afrique n'avance pas? Parce que nous avons fait l'école. Donc nous souffrons aujourd'hui à cause de l'école. Les gens qui nous dirigent, c'est eux qui ont fait des études, des grandes études. Ils ont de grands diplômes. Qu'est-ce qu'ils ont parti faire là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont parti étudier? Ils ont parti étudier comment détruire l'Afrique. Ils ont parti étudier comment manipuler le peuple. Ils ont parti étudier comment voler l'argent du pays. C'est ça notre souffrance, nous les Africains. Nous ne sommes pas dans cet Iran des Occidents, faire des grandes études, je sais pas, docteur en quoi, je sais pas. Les vraies écoles de l'Afrique, qui peut nous avancer, c'est l'agriculture. C'est tout. Il faut savoir comment on peut transformer le manioc en farine, ça peut donner du pain. Ça, c'est l'école. Mais l'école, là, nous avons fait, après avoir passé tout notre temps à l'école, après, chercher encore l'argent pour venir en Europe. Et en venant en Europe, tu fais le vigile pour surveiller des ketchup, des frites. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Au revoir.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages. Vous pouvez désormais intervenir en direct dans le JDA en composant le 01 55 07 58 00. Aujourd'hui dans le JDA, comment avoir les clés pour comprendre la politique africaine? Nous parlons de l'école politique africaine qui vient de voir le jour en Ile-de-France. Nous en parlons avec l'un des professeurs, Hamzat Boukari-Amara. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu jusqu'à nous. Vous êtes historien, spécialiste de l'Afrique et du panafricanisme. Vous avez publié Africa Unite aux éditions La Découverte, mais aussi Walter Rodney, un historien engagé aux éditions Présence Africaine. Vous êtes aussi membre, voire secrétaire général de la Ligue panafricaine UMOJA, toujours secrétaire général, oui, toujours, du bureau. Un mouvement politique qui a plusieurs sections dans de nombreux pays d'Afrique. Alors, cette présentation vise aussi à montrer votre engagement et votre militantisme. Vous êtes ce qu'on appelle un intellectuel engagé? Oui, vous définissez ainsi?
Oui, d'une certaine manière, même s'il faut bien distinguer, on va dire, la partie scientifique de mes travaux de la partie militante, puisque j'ai aussi une forme d'objectivité par rapport à mon propre objet Et je pense que quand on produit des savoirs, il faut être capable de les vulgariser de manière large.
On reviendra justement sur la position intellectuelle engagée tout à l'heure. Première question, vous êtes l'un des professeurs de cette école politique africaine, EPA, qui est une association. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette idée de Gédéon Okrou de créer une école politique africaine ?
Alors, ce qui m'a séduit dans l'idée de créer une école politique africaine, c'est tout simplement le déficit manifeste exprimé par un certain nombre d'étudiants africains en France ou également en Afrique qui m'envoient régulièrement des messages, des mails par les différents outils de communication sur l'absence de professeurs en capacité de suivre leurs sujets de mémoire, de master ou de thèse. Et donc souvent des demandes de les aider à trouver les bibliographies nécessaires, les contacts nécessaires, les informations nécessaires pour produire des éléments d'analyse sur l'Afrique qui soient le fruit d'une pensée autonome. Mmh. Et donc c'est le sentiment que tout ce qui relève en fait de l'Afrique, aussi bien ici en France que même sur le continent, est encore dans des carcans idéologiques qu'il faut être capable aujourd'hui de dégager pour permettre aux uns et aux autres, je dirais, d'acquérir les pleins instruments de leur autonomie. Donc je pense que ce qui m'a vraiment intéressé, c'est cette dimension d'autonomie, en sachant que personnellement, je n'ai jamais enseigné dans l'université française. Mmh. Et donc je m'inscris réellement en dissidence par rapport à un certain système qui pour moi n'est pas du tout adapté en fait aux étudiants africains, c'est-à-dire de manière générale le système francophone, aussi bien ici en France que dans les anciennes colonies qui ont gardé ce système-là et qui du coup apportent à leurs étudiants des méthodologies, des ressources, des sources qui ne sont pas du tout adaptés pour répondre, je dirais, aux défis contemporains de l'Afrique.
Alors justement, l'un des objectifs de cette école, c'est appréhender les questions africaines sans tomber dans des stéréotypes. Quels stéréotypes vous voulez éviter, par exemple ?
Les stéréotypes culturalistes, c'est-à-dire concevoir l'idée que la politique en Afrique se résume à la politique du ventre, à des approches de corruption, une nature, on va dire, culturaliste du politique, le tribalisme, l'ethnie, etc. On va expliquer les élections juste par des jeux de calcul ethnique, alors que les choses sont beaucoup plus compliquées. Et puis aussi, beaucoup de résumés succincts dans les médias, dans toute l'apparition de ces médias .afrique, qui se spécialisent, entre guillemets, sur un continent sur lequel ils n'ont pas forcément d'expertise en tant que tel, et qui a pour habitude, justement, de ne pas mettre en avant l'expertise africaine sur l'Afrique. Donc c'est vraiment montrer qu'on est capable, donc à partir de travaux qui sont propres à nous, de développer une analyse politique sur l'Afrique. Et donc dans la bibliographie de cette école politique africaine, la très grande majorité des références sont des références africaines qui sont totalement absentes à Sciences Po ou à l'université quand on aborde des questions africaines.
Parmi ceux-là, par exemple
Par exemple, Bogbasson, par exemple, pour la théorie du droit en Afrique, je pense que c'est très important de lire les travaux de ce savant camerounais qui touche à plusieurs aspects du droit. Mamoudou Gazibo, qui a été l'un de mes formateurs à l'Université de Montréal, qui enseigne la science politique. Donc son ouvrage « Introduction à la politique africaine et approche de théorie politique comparée ». Essé Amouzou, qui enseigne à l'Université de Lomé. Et puis d'autres chercheurs qui sont présents régulièrement dans la bibliographie que je donne aux élèves.
Alors notre éducation doit donc inculquer un sentiment d'engagement pour toute la communauté et aider les élèves à accepter les valeurs appropriées à celles du futur que nous voulons, pas celles appropriées à notre passé colonial. Alors cette citation de l'ancien président tanzanien Julius Nyerere s'affiche sur le site de l'EPA. Est-ce que aussi il s'agit aussi de rompre, ce que vous venez un peu de dire, de rompre avec une vision du monde plus générale au-delà de l'Afrique occidentalisée?
Oui, tout à fait. Des figures comme Julius Nyerere ou même Joseph Kizerbo sont très peu connues dans l'espace dit francophone. Kizerbo un petit peu plus parce qu'il vient d'une ancienne colonie. Néanmoins, on a des penseurs et des acteurs politiques dans notre patrimoine qu'il faut aujourd'hui utiliser pour décoloniser à la fois donc la science politique, c'est-à-dire l'étude des mécanismes et des systèmes d'organisation politique, et également la politique dans le sens de la pratique, de la mise en application de théories qui visent en fait à donner des solutions, à apporter des solutions à des problèmes concrets.
Décoloniser les savoirs. On va écouter un auditeur qui nous écoute régulièrement depuis Djibouti. On va voir s'il est là. Hassan, bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs et bonjour à votre invité aussi.
Bonjour Hassan. Vous avez entendu, est-ce que cette idée de l'école politique africaine vous séduit ? Qu'en pensez-vous ?
Tout à fait, je vais être étudiant à cette université ou à cette faculté. C'est très important parce que nous avons aujourd'hui que l'Afrique est confrontée à de plusieurs défis. Nous avons qu'il y a des intérêts qui sont souvent divergents qui s'y passent. Donc, trouver des Africains qui ont l'africanisme, si on peut dire, dans le cœur et qui enseignent l'Afrique réelle et l'Afrique qui veut avancer, c'est très important. Donc, j'aimerais rentrer en contact avec ce professeur, si possible. Et j'aimerais dire aussi que est-ce que cette université est gratuite? Parce que nous avons que l'Afrique, les étudiants ne sont pas souvent des boursiers ou n'ont pas des moyens financiers très importants. Ou c'est une université qui est payante et qui est donc comme les autres universités. Et je voudrais encourager ces professeurs et l'ensemble du corps professoral qui veulent enseigner l'Afrique et proprement dite qui veulent développer l'Afrique et autant qu'une Afrique naître, si on peut dire, et qui peut apporter des solutions aux Africains. Bon courage et voilà.
Merci de vos encouragements. Hassan, on a mis sur la page Facebook que vous consultez régulièrement un lien justement vers le site de l'École politique africaine. Vous aurez toutes les infos. C'est pas très cher. On va aborder les questions pratiques rapidement. Ce sont des cours du soir ici en Île-de-France.
Oui, rapidement, ce sont effectivement des cours du soir, c'est-à-dire que c'est pas une formation diplômante. On n'est pas là pour délivrer des grands diplômes, mais pour délivrer du contenu qu'on estime tout à fait adapté par rapport aux besoins d'une certaine communauté aujourd'hui qui veut comprendre la situation politique du continent africain. Ce sont des cours du soir, donc lundi et vendredi de 18h30 à 21h30. Les modalités sont indiquées effectivement sur le site de l'École politique africaine. Et les tarifs sont autour de 500 euros à l'année, donc avec des facilités de paiement pour les uns et les autres. Et il y a l'objectif de mettre en place aussi des résumés de cours pour les personnes qui sont à distance, parce que nous avons reçu énormément de demandes de personnes qui, bien évidemment, ne sont pas en Île-de-France et qui souhaitent aussi suivre cette formation.
Donc vous êtes en train de réfléchir pour avoir des cours en ligne, c'est ça, finalement? Des résumés de cours ou des cours en ligne?
Des résumés de cours dans un premier temps, puisque la méthodologie des cours en ligne est assez particulière et pour le moment, les résumés de cours seront prochainement disponibles.
Alors Hassan, depuis Djibouti, saluez le corps professoral. Vous êtes combien de professeurs? Il y a Maître Alioutal aussi qui intervient régulièrement sur cette antenne. J'ai vu qu'il était dans le dossier de presse. Non.
Maître Alioutal, c'est une erreur. Il n'est pas du tout dans l'école, en fait. Donc on a Edgar Captoué qui enseigne donc la cyberguerre, notamment. Et après, on a un certain nombre de professeurs qui seront plus des professeurs intervenants, donc qui seront annoncés au fur et à mesure en fonction des domaines dans lesquels ils vont intervenir, notamment tout ce qui est lié à des aspects plus techniques comme le journalisme politique, comme les éléments liés aussi à la psychologie politique, des foules sociales et du quotidien, et également des éléments, on va dire, d'économie politique et également de droit.
On va écouter dans un instant Monsieur Danone qui nous appelle. Je rappelle le numéro 01 55 07 58 00 01 55 07 58 00. Mais avant cela, Hamzat, je voulais vous donner peut-être un aperçu du contenu de votre cours. Vous êtes spécialisé, vous faites la science politique africaine, ce sera bien ça. Les étudiants vont faire à vous.
Oui, tout à fait.
Et globalement, que va-t-on trouver dans votre cours? Quel sera son contenu?
Alors, c'est un cours d'études politiques africaines en plusieurs modules. Donc, il y a un premier module qui, en fait, s'intéresse, on va dire, aux éléments fondamentaux de la politique africaine. Donc, c'est une étude, on va dire, systémique des différentes sociétés politiques africaines d'avant la période coloniale et de montrer en quoi il y a encore des éléments de cette période-là qui impactent la politique actuelle et qui permettent de s'appuyer sur ces éléments-là pour reconstruire différemment la politique africaine. Il y aura également un module consacré aux figures politiques africaines, parce que c'est important de connaître quelles sont ces figures, en quoi elles ont polarisé la vie politique des pays africains d'aujourd'hui. Également donc des modules consacrés aux questions de géopolitique et de relations internationales, et puis également des points plus spécifiques, notamment autour de la géopolitique du bassin du Congo dans le cadre de l'espace atlantique. Donc un certain nombre de cours qui relèvent en fait du niveau de première année, puisque la formation que nous voulons construire se fera en 3 ans et qu'au fur et à mesure, le niveau sera un peu plus dense au fur et à mesure, donc selon les années d'inscription.
Un programme qui, je suis sûre, doit intéresser nos auditeurs qui se passionnent souvent d'ailleurs pour ces questions. Monsieur Danone, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, Danon peut-être, j'ai écorché, non?
Oui, non, c'est ça. Oui, c'est cela, c'est Danone. Ça, madame. Mmh. Oui, bonjour à vous et bonjour à votre invité. Et je tiens d'abord à le remercier pour l'initiative. Mmh. Et seulement, ce qui me chagrine un peu, j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'il a choisi d'installer cette école en Île-de-France et pas en Afrique. Ouais. Alors qu'on sait qu'en Afrique, il y a quand même des cerveaux qui n'ont pas peut-être l'opportunité de venir étudier dans cette école-là en Europe, mais peut-être qui avaient quand même la volonté de quand même d'avoir un bagage intellectuel politique assez conséquent pour pouvoir un jour diriger leur pays. Alors pourquoi avoir choisi l'Île-de-France et pas l'Afrique?
C'est très clair, Danone, vous n'êtes pas le seul à partager cette question. Il y a Kabilotel Kabilo qui nous dit sur Facebook, la plupart de nos dirigeants francophones ont été formés en Occident. Peut-être il nous faut plus de dirigeants formés sur place en Afrique.
C'est un faux débat déjà parce qu'en Afrique, il y a des vraies universités qui sont censées enseigner la science politique, même si ces universités sont souvent laminées du fait que la politique en Afrique est vue de manière très négative par les systèmes actuels. Mmh. Et d'autre part, les gens réels font des choses réelles là où ils sont aussi réellement. C'est-à-dire que rien n'empêche les nombreux cerveaux qui sont aujourd'hui en Afrique de nous contacter pour créer une école politique africaine à Conakry, à Cotonou. Je vais régulièrement aussi donner des conférences à Bamako, à Abidjan, etc. Ensuite, c'est important de comprendre qu'effectivement, on a une partie de l'élite africaine qui est formée en France, mais elle est mal formée. Donc nous, ce que nous proposons à cette élite africaine qui vient se former ici, c'est qu'elle soit justement formée différemment. Ensuite, il faut bien comprendre que Paris reste, malgré tout, qu'on le veuille ou non, une place où se décide la politique africaine. Donc il faut qu'il y ait ici, à Paris, en France, des Africains qui soient formés politiquement pour opposer un autre discours à ceux qu'on estime être justement formés dans un carcan dit occidental. Donc il s'agit vraiment de proposer déjà au niveau de la diaspora, qui doit être politiquement formée, des éléments qui lui permettent d'avoir une pensée critique. Et ensuite, évidemment, on a tout à fait l'ambition de l'installer en Afrique. Mais là encore, je pense qu'il faut se poser plutôt la question de savoir pourquoi personne en Afrique, pour le moment, n'a pensé à créer cette école. Parce que ça ne nécessite pas non plus 10 000 efforts. Si demain, quelqu'un qui a écouté cette émission à Cotonou m'appelle et me dit « nous, on veut créer une école politique africaine à Cotonou », eh bien, je peux lui assurer que dès qu'il fait le travail administratif, eh bien, dès janvier, cette école sera créée à Cotonou et je viendrai y donner des cours sans aucune difficulté.
Africa numéro 1 se fera l'intermédiaire volontiers. Est-ce qu'on peut dire finalement que l'école politique africaine se veut aussi, vous dites beaucoup, et c'est important de sortir des carcans habituels, on l'avait dit, de nombreux jeunes Africains vont se former ici, dans les grandes universités, voire Sciences Po, l'ENA aussi, l'école nationale d'administration. Est-ce qu'en allant dans ces écoles aussi, on reproduit des schémas qui ne sont pas forcément favorables à l'Afrique? Il y a par exemple l'auditeur tout à l'heure qui disait sur le répondeur, oui, nos dirigeants vont apprendre en Occident comment nous piller. Est-ce que c'est aussi, peut-être caricatural ce que je viens de dire, mais est-ce que aussi l'école politique africaine vise à introduire un autre discours dans les sciences politiques?
Oui, c'est introduire effectivement un autre discours, c'est montrer que la politique telle qu'elle nous est présentée, peut être changé, peut être modifié, peut être révolutionné dans un premier temps. D'autre part, c'est aussi souligner que le continent africain fait aussi l'objet de déploiements. Par exemple, Sciences Po a ouvert un campus en Afrique, au Kenya, et on a d'autres antennes universitaires françaises qui sont présentes en Afrique. Donc, c'est pas tellement la question de savoir là où on est formé, est-ce qu'on est formé en Afrique ou en Occident, mais plutôt dans quel système on est formé. Et au niveau de l'école politique africaine, on veut créer un système différent, on est en train de créer un système différent qui là encore s'appuie sur des références africaines du point de vue économique, du point de vue politique, du point de vue sociologique, du point de vue historique, ce qui n'est pas le cas dans les universités de sciences politiques classiques où on apprend plutôt effectivement de la théorie qui n'est pas adaptée au terrain africain, étant donné que par exemple la conception théorique de la démocratie qu'on apprend dans la science politique classique n'a rien à voir avec la manière dont la démocratie est pensée ou appliquée en Afrique. Les systèmes d'élection, de gouvernance, de modalités pratiques qui ont lieu sur le continent africain, dans une grande majorité des États, n'ont rien à voir en fait avec les théories qu'on apprend ici. D'autre part, ce qu'il faut comprendre, c'est que la politique, ce n'est pas non plus une affaire de formation. Beaucoup de personnes qui sont dans la politique ne se sont pas formées dans les grandes écoles, dans les universités. Je pense que c'est une erreur de raisonner de cette manière-là. Beaucoup de personnes se forment aussi par des réseaux. Et l'intérêt de l'école politique africaine, c'est de construire aussi un réseau professionnalisant qui permet à des personnes qui n'étaient peut-être justement pas nées ou vouées à faire ce type d'études, eh bien, à rentrer dans ce domaine. Donc comment on devient finalement un citoyen africain, un citoyen conscient des enjeux politiques africains, et comment justement on sort de cette image du politique qui est nécessairement quelqu'un de corrompu, quelqu'un d'aliéné, quelqu'un qui n'est pas responsable et qui serait justement la cause de tous les malheurs du continent africain du fait qu'il soit formé à l'extérieur de l'Afrique.
Inventer une nouvelle génération de leaders. On retourne du côté du standard. Écoutez, Youssouf, il nous reste quelques minutes. Youssouf, bonjour.
Oui, bonjour à vous, bonjour à votre invité.
Bonjour Youssouf. Donc,
je remercie Danone pour la pertinente question qu'il a posée. Et c'est incroyable. Je veux qu'on m'explique.
Ah. Vous allez répéter la même question, Youssouf, c'est ça?
Pardon?
Allez-y, pardon.
Non, je veux qu'on m'explique. Comment peut-on installer une école politique de formation politique dans la gueule de la Françafrique, dans la capitale de la Françafrique?
C'est Paris qui vous gêne.
Tous les dirigeants qui sont chez nous, qui sont sortis dans les écoles occidentales, ont été formatés et captés. Et ils vont tous avec une fiche de...
Vous avez entendu notre invité, Youssouf, qui disait finalement ce qui compte, c'est pas le lieu où l'on est formé, mais comment on est formé.
Non, mais c'est pas vrai. Le lieu que ça compte, mais vous savez comme les différents réseaux de la Françafrique, vous savez ce que c'est les réseaux?
Écoutez, monsieur, vous n'allez pas m'apprendre ce que c'est la Françafrique, puisque ça fera partie précisément des éléments qu'on va enseigner. Nulle part la Françafrique n'est enseignée, elle sera enseignée à l'école politique africaine pour la déconstruire et pour mettre en place quelque chose d'autre. Maintenant, si vous pensez qu'on est dans ce système-là, libre à vous de le penser, mais je pense que ce n'est absolument pas le cas.
Le lieu, voilà. La réponse est faite, Youssouf. Youssouf qui nous appelle depuis Paris aussi. Merci Youssouf de votre contribution. On va écouter Ernest. Ernest, bonjour.
Bonjour, je salue tous les auditeurs et vous.
Salut Ernest.
Ma question est très simple. Je voulais savoir cette école qui a été créée. Est-ce qu'il y a eu un partenariat avec les autorités africaines? Et deuxièmement, est-ce que l'enfant qu'on va mettre dans cette école, dès que l'enfant sort de cette école, est-ce que le diplôme va être reconnu par les autorités africaines? Parce que la question que je me pose, ils vont se poser des questions. Est-ce que nous, on forme mal nos élèves en Afrique? Et qu'ils soient formés en Europe et qu'ils viennent nous montrer comment on doit se comporter. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, l'Afrique est gouvernée comme si on était encore à l'époque coloniale, quoi.
Alors Ernest, je vais laisser Hamzat Boukhari répondre. Merci beaucoup Ernest de votre question. Effectivement, l'école politique, on a dit école, c'est davantage une association.
C'est des cours du soir, c'est-à-dire qu'il faut pas croire qu'on forme des diplômes de gens qui vont aller piller l'Afrique, c'est pas ça le but. On n'a pas besoin de former des gens pour le faire, ils le font déjà. Si on a créé cette école, c'est précisément parce qu'il y a des gens qui sont formés dans ce système-là et qui vont faire ça. Et donc nous, on ne veut pas reproduire ce qui fonctionne déjà mal et qui est contre nos intérêts, premièrement. Deuxièmement, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre objectif, il est professionnalisant. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour former des professionnels de la politique, des politiciens de bas étage qui ne sont là que pour piller. On est là pour former des hommes et des femmes qui ont pour objectif soit précisément de comprendre les enjeux de politique africaine, soit dans un certain cas aussi de mener des projets sur le continent africain en ayant une analyse politique de la situation. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller lancer un projet quelque part en Afrique sans avoir une lecture politique de la situation. Donc je pense qu'il faut vraiment que certaines personnes sortent de cette vision bisounours et comprennent qu'aujourd'hui on a besoin d'être formés de manière rigoureuse et sérieuse et que ce n'est pas le cas. Et ce que l'école politique africaine propose aux inscrits, aux apprenants, à ceux qui suivent les cours, eh bien c'est de mettre en place ces éléments qui permettent d'avoir une pensée critique et non pas d'être un mouton qui fonctionne dans ce système-là, et d'autre part d'avoir les moyens de comprendre le terrain dans lequel on s'inscrit. Il ne s'agit pas d'aller donner la leçon à ceux qui sont sur le continent. Donc les autorités africaines, déjà, de quelles autorités parle-t-on? Parce que les autorités africaines, ça ne veut rien dire. Il y a 55 pays. Ensuite, quand on dit pourquoi vous n'êtes pas en Afrique, en Afrique, il y a suffisamment d'endroits où on pourrait être présent. Donc il faut faire, je pense, des critiques précises et construites. Maintenant, nous sommes tout à fait disposés à travailler avec des autorités qui seraient intéressées par développer ce type de modèle. Mais bien évidemment, nous ne choisirons pas des autorités dont la vision politique est contraire précisément à nos à la manière de penser la politique africaine. Donc nous ne sommes pas du tout l'arrière-garde de tel ou tel dirigeant africain qui pillerait son peuple et qui massacrerait son pays. Nous fonctionnons sur une base qui est totalement autonome. Nous sommes, je dirais, d'un point de vue scientifique, dans une rigueur qui fait que cette école n'est pas une école d'idéologie ou de propagande, c'est une école de formation pour des hommes et des femmes qui veulent repenser le continent africain de manière différente et qui veulent aussi sortir de ce débat sempiternel sur le fait que les intellectuels, les diplômés, etc. seraient les responsables du malheur du continent africain. Aujourd'hui, on ne s'en sort pas précisément parce qu'on n'a pas suffisamment de masse critique. Et donc, pour avoir une masse critique, il faut effectivement mettre en place des organisations, des structures, donc une école, une formation qui apporte cette masse critique aux uns et aux autres, qui doit être présente aussi bien dans la diaspora que sur le continent africain. Donc encore une fois, j'invite les uns et les autres qui sont présents sur le continent africain à s'organiser comme nous l'avons fait ici pour mettre en place des éléments administratifs, des partenariats. Nous sommes tout à fait disposés à faire des partenariats avec des universités ou des écoles africaines. Nous sommes tout à fait disposés à ce que des États qui envoient leurs fonctionnaires se postent formés à l'ENA, ben les envoient plutôt à l'école de politique africaine. Nous sommes tout à fait disposés à ce type de partenariat. Mais maintenant, je pense qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas évident. Évidemment, nous sommes, comme on dit, dans la gueule du loup. Nous ne sommes pas naïfs. Nous savons quelles sont les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Et c'est pour cela que le contenu de l'enseignement est particulièrement rigoureux. Je pense qu'il nous faut de la rigueur dans ce que nous faisons.
C'est très... Amzat Boukhari, vous dites que ce n'est pas idéologique, mais quand même, il y a quand même derrière cette idée d'école politique africaine un aspect révolutionnaire. Il s'agit aussi de changer les choses, non ?
Oui, si on veut, oui, ça peut être effectivement de changer les choses, puisque déjà, premièrement, ça ne s'est jamais fait. Il n'y a jamais eu d'école politique africaine ici en France. Toutes les écoles politiques africaines, ce sont les réseaux, c'est la France-Afrique, c'est des choses, on va dire, que l'on connaît bien, ou alors de manière un peu superficielle. Nous, notre objectif, encore une fois, c'est de prendre des hommes et des femmes qui sont pas forcément nés pour ça, qui sont pas forcément nés pour avoir un destin de ce genre-là, et les aider aussi à construire leur propre projet dans le cadre, on va dire, d'une conception différente de la politique africaine. C'est très important. Donc effectivement, il y a la volonté d'un changement. Et encore une fois, j'insiste dessus, ça part du constat, mon engagement part du constat qu'il y a énormément d'étudiants africains qui viennent ici en France et qui constatent que ce qu'on apprend en France n'est pas du tout adapté à ce dont ils ont besoin pour retourner en Afrique et faire des choses positives en Afrique. C'est de ça que part le constat. C'est pas des lucubrations sur quelque chose qui se ferait, etc. Ça part vraiment du terrain. Il y a de la demande et je peux vous assurer qu'on reçoit énormément de demandes de gens qui voudraient s'inscrire, y compris sur le continent, et qui montrent que précisément ce qu'on propose, ce qu'on fait, c'est absolument nécessaire. Donc il faut, je pense, comprendre qu'il ne s'agit pas d'une révolution, il s'agit de quelque chose de normal, de logique, qui devrait exister, bien évidemment, aussi sur le continent africain. Mais il se trouve que le porteur initial du projet réside ici, en région parisienne, et que les choses se font là où les gens résident. Donc si des gens qui résident à Bamako, à Dakar, à Abidjan ou à Cotonou, veulent créer une école politique africaine, ils nous contactent, on met en place un partenariat et on y va. C'est pas plus compliqué que ça.
Et on espère que ce projet se fera boule de neige, bien sûr. On n'a juste même pas le temps, je crois, de terminer avec Mohamed, qui voulait vous encourager, qui disait c'est une bonne chose. Je remercie à Mohamed de nous avoir appelé. On pourra peut-être le prendre peut-être un peu plus tard. On arrive à la fin de cette émission. Merci Amzat d'être venu défendre cette école politique africaine.
Merci à vous.
Mais j'ai aucun doute que la plupart de nos auditeurs réguliers sur Africa Numéro 1 sont intéressés par cette école politique africaine. Donc on a mis toutes les informations sur la page Facebook de l'émission, facebook.com/journal des auditeurs. On aura l'occasion peut-être de suivre l'actualité de cette école. Merci encore Amzat Boukhari Abarat d'être venu jusqu'à nous. Merci à tous, chers auditeurs. On se retrouve demain pour une nouvelle édition du Journal des auditeurs. Justement, demain, nous parlerons du Gabon, nous parlerons des élections législatives, mais aussi peut-être un peu de la santé du président gabonais. N'hésitez pas à vous inscrire en nous laissant un message sur le répondeur ou en envoyant un mail jda@africa1.com. En attendant, prenez grand soin de vous à l'écoute d'Africa numéro 1. À demain.